Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen. Vous êtes sur la chaîne YouTube d'Eurosport France, je suis Arthur Merle et voici le programme du jour. On commencera en Espagne par débriefer ce classico remporté dimanche soir par le Real Madrid face au FC Barcelone, victoire 2 buts à 1. On va évidemment voir ce qui s'est passé côté Real avec notamment des bons choix de Xabi Alonso et une première victoire marquante dans l'ère du technicien espagnol au Real. Mais on va aussi s'intéresser à la passe difficile que traverse ce Barça qui a décidément bien du mal à retrouver ses couleurs de la saison dernière. On ira ensuite en Première Ligue. Il s'est passé pas mal de choses intéressantes, notamment là aussi dans la course au titre. Arsenal est le grand gagnant du week-end après les défaites de Liverpool et Manchester City. On va s'intéresser à ça, mais aussi à la très belle histoire de Sunderland, le Sunderland des franchises de Régis Lebris, qui s'installe dans le top 4 de Première Ligue. On va nous demander à Philippe Auclair de nous raconter cette jolie histoire. Et puis on terminera avec évidemment la Ligue 1, la Ligue des Talents. Pas mal de choses intéressantes dans la course à l'Europe. On fera un focus particulier sur ce Lens-Marseille, victoire lensoise de 2-1 et deuxième défaite de la semaine pour l'Olympique de Marseille. Question très simple à Elton, est-ce que cette semaine elle est inquiétante pour l'OM ou est-ce que c'est juste un épiphénomène? Voilà pour le programme, le rappel vous le connaissez, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Vous avez aussi le FC Stream Team évidemment le vendredi en ce qui concerne les émissions foot. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer des commentaires, voilà tout ça est très utile. Vous avez le rappel, vous avez le programme, on peut y aller, c'est parti. Allez, on démarre ce Tour d'Europe en Liga et on rejoint Anna Caro tout de suite à Barcelone. Barcelone où on doit tirer la tête quand même ce lundi matin, Anna, parce qu'il s'est passé quelque chose de pas anecdotique pour les Catalans dimanche après-midi, à savoir une défaite, la première de l'ère Hansi Flick face à l'ennemi juré madrilène. Victoire 2-1 du Real. Anna, pour commencer, vu de France, on a été globalement déçus par ce classico. Est-ce que c'est la même chose vu d'Espagne? Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre?
Ce qu'on retient surtout de cette rencontre côté espagnol, c'est le classement en fait. C'est surtout l'aspect purement comptable de se dire que le Real a 5 points d'avance sur le Barça. Alors, il n'y a pas d'enflammade sur le fait que la Liga serait déjà jouée parce qu'il y a quand même les souvenirs de la saison passée où c'était plus ou moins le même scénario et qu'au final, le Barça est repassé devant. Donc, il n'y a pas non plus trop d'excès de ce côté-là. Mais clairement, c'est l'aspect comptable qui compte. Les observateurs ont du mal un peu à dire que c'était un mauvais classico, entre guillemets, parce que bah, voilà, ça reste l'affiche du championnat espagnol. Donc, c'est difficile de critiquer quand même ce qui se fait normalement de mieux dans son pays. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de déceptions, et surtout côté catalan, parce que si on regarde les médias catalans ce matin, les journaux catalans, c'est beaucoup de déceptions de voir ce Barça inoffensif, de n'avoir quasiment rien proposé et d'avoir été finalement sans solution face à un Real Madrid que côté catalan on estime prenable.
Ok, on va revenir un peu plus en détail sur le Barça après, mais on va dire honneur au vainqueur, honneur au Real. Il y a eu cette victoire contre la Juve en Ligue des Champions, mais là on a l'impression quand même que c'est la première victoire vraiment référence de l'ère Xabi Alonso. Est-ce que c'est une victoire qui vient être un premier marqueur, qui vient valider vraiment ce début d'ère Xabi Alonso? Est-ce que c'est comme ça qu'on l'analyse?
C'est comme ça qu'on l'analyse et c'est comme ça que lui-même l'analyse, parce qu'il l'a dit en conférence de presse juste après en disant que c'est une victoire qui fait du bien, c'est une victoire dont avait besoin un groupe. Il dit ce groupe avait besoin de savoir qu'il était capable de vaincre une grosse équipe. Et clairement là, ça a été le cas, parce qu'effectivement, ce n'était pas le meilleur Barça qu'on ait vu ces dernières années, enfin en termes de purement de jeu, hein, j'entends. Mais voilà, ça reste le Barça. Le Real avait très mal géré en début de saison sa défaite face à l'Atlético, parce que autant c'est compliqué souvent pour le Real de gagner contre le Barça, mais globalement contre l'Atlético, ça se passe plus ou moins bien. Là, vraiment, ça avait été une claque qui avait été subie au Wanda. Et c'est vrai que Xabi Alonso, lui, avait vraiment besoin lui-même de référence aussi pour appuyer son jeu auprès des joueurs. Mais visiblement, il y avait besoin aussi de confiance au sein du vestiaire madrilène. Déjà de confiance vis-à-vis de son entraîneur, mais de confiance peut-être en leur qualité eux-mêmes. Et si on regarde par exemple la performance de Vinicius hier, qui était énorme, c'est son meilleur match de la saison. on se dit peut-être que voilà, il fallait que les choses se décantent côté Real Madrid, que les joueurs y croient enfin. Et c'est vrai que c'est une victoire hyper importante pour Xabi Alonso. C'est déjà c'est le premier entraîneur depuis Zidane à gagner son premier Clasico, mais c'est aussi pour lancer la suite. Et c'est très bien que ça arrive là fin octobre, parce qu'on sait que tous les gros matchs sont plutôt à venir que dans le passé.
Je fais une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse, Vinicius, parce que tu commençais à en parler. Effectivement, gros match du Brésilien, mais c'est tellement dommage de venir gâcher ça par sa sortie où voilà, il montre très clairement son mécontentement d'être remplacé. Ensuite, il est impliqué dans les échauffourées d'après-match. Classique avec Vinicius, on a envie de dire, mais c'est dommage, ça fait presque oublier sa grosse performance en fait.
Alors, ça n'a pas forcément fait, en tout cas ici, ça n'a pas forcément fait oublier sa performance. C'est vrai que c'est des images qui ont été quand même marquantes en fin de match. Et ce n'est pas la première fois hein, que un classico termine comme ça, malheureusement. Après, on sait que c'est aussi beaucoup lié à ce qui s'est passé en avant-match, des choses qui ont été un peu montées en épingle. Parce que si on prend par exemple les propos de Lamine Yamal, ça a été un peu voilà, survendu. Et c'est clair que cette notion de la surenchère, bah, à force. Ça paye, ça reste dans les esprits. C'est pas forcément Vinicius pour le coup qui est allé chercher les embrouilles à la fin du match. Donc il faut quand même mettre ça à son crédit. C'est plutôt Dani Carvajal, ce qui est aussi dommage parce qu'il a quand même 33 ans et qu'il est capitaine du Real Madrid. Donc bon, il y avait peut-être une meilleure preuve de maturité à faire. Donc non, Vinicius oui, ce qui fait tache effectivement, c'est sa sortie très énervée. Peut-être aussi que c'est un problème aussi du côté de Xabi Alonso parce que c'est son meilleur match depuis le début de la saison. C'est vrai que le faire sortir à ce moment-là, alors qu'il n'est pas le seul au Real Madrid à commencer à fatiguer un peu, à être en deçà, bah, c'est pas un message très sympa. Après, ça reste un joueur. L'entraîneur décide et c'est à lui de se plier à ces règles-là. Mais c'est vrai que c'est peut-être dommage même des deux côtés finalement cette sortie parce que peut-être que ça aurait pu être mieux géré aussi du côté du staff madrilène.
Ouais, tout à fait. Ah non, on va se permettre de zapper entre guillemets Kylian Mbappé qui nous habitue tellement à l'excellence qu'on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de saison dans Tour d'Europe sur le site. Excellent match du Français, buteur, des buts refusés, bref, il était partout. Mais il y a un autre joueur quand même sur lequel on va s'attarder, c'est Jude Bellingham. Là, c'est vraiment un but, une passe D. C'est la preuve qu'il est définitivement de retour dans ce 11 du Real. Il y a eu son après-blessure un peu délicate à gérer, en tout cas son retour progressif. Là, c'est un vrai, vrai message envoyé par l'Anglais qui était déjà buteur en plus en C1.
Alors, c'est un vrai message envoyé par l'anglais, effectivement, mais c'est aussi un très bon message de la part de Xabi Alonso, qui, dans la composition de départ, avait décidé de le mettre, lui, dans les meilleures dispositions, avec Camavinga et Tchouaméni derrière, pour faire tout un peu le sale boulot que lui ne fait plus trop depuis qu'il est arrivé au Real Madrid et qu'il est beaucoup porté sur l'aspect offensif. Et bah, c'est un coaching hyper gagnant pour Xabi Alonso parce qu'avec ce système-là, où en fait il a énormément assuré derrière, et donc défensivement, il a permis à Jude Bellingham de retrouver un peu le Jude Bellingham qu'il était avant. Mais finalement, on n'est pas vraiment surpris parce que, comme tu l'as dit, il revient d'une blessure à l'épaule. Et lui-même avait dit sur ses premiers matchs avec le Real qu'il savait qu'il n'était pas forcément super bon et qu'il n'était pas non plus à 100%, qu'il avait besoin de revenir à 100%. Donc c'est une super nouvelle pour le Real Madrid. C'est une super nouvelle aussi pour l'équilibre global du Real Madrid parce qu'on parle souvent de quel est ce troisième homme devant au Real. Alors Jude Bellingham n'est toujours pas un attaquant, ça reste un milieu offensif, mais c'est sûr qu'avec une telle performance, bah, ça va conforter Xabi Alonso dans ses choix déjà, et ça va permettre au Real Madrid sans doute de pouvoir viser plus haut, parce que pour l'instant, c'était Mbappé et Vinicius, et en plus un Vinicius qui était peut-être un peu en deçà de ce qu'on a pu le connaître. Donc on voit que Vinicius redevient le maître à jouer du Real Madrid, et c'est sûr que là, on arrive fin octobre, il va normalement faire que progresser, et encore plus maintenant que Xabi Alonso semble avoir trouvé son système tactique qui lui correspond.
Bon, on va ouvrir le chapitre FC Barcelone quand même, Anna. Trois défaites sur les cinq derniers matchs pour le Barça. Barça qui avait déjà été battu par le PSG, qui là perd de nouveau contre un gros poisson. Qu'est-ce qui se passe pour cette formation qui a vraiment du mal en fait à réafficher ce visage tellement emballant la saison dernière?
On se pose un peu les mêmes questions chaque semaine, finalement, parce que c'est vrai que
Oui, c'est vrai.
c'est presque les mêmes problèmes qui apparaissent. On pensait que Flick avait trouvé une partie des solutions quand à l'Olympiakos, il aligne un 11 avec un milieu de terrain supplémentaire et que donc ça permet peut-être de plus libérer les offensifs devant, même Fermín de jouer en faux neuf. Donc du coup, de créer parfois ce surnom dans le milieu de terrain, mais aussi d'être l'attaquant de pointe du Barça. Donc on pensait que bah, sans doute Hansi Flick allait renouveler ça contre le Real. On va dire qu'il est un peu mort avec ses idées ce week-end. Et c'est dommage parce que, comment on l'a vu, le milieu de terrain du Barça a rapidement été dominé par celui du Real Madrid. Et c'est un peu tout le temps la même chose côté Barça, c'est que quand le milieu de terrain est surpassé, bah, en fait, très vite, le Barça perd le jeu qu'il a l'habitude de mettre en place. Il y a pas mal d'hypothèses quand même sur ce problème du Barça qui commence à persister finalement. C'est l'aspect physique déjà, parce qu'on sentait que par exemple Frankie de Jong ou Pedri avaient beaucoup de mal à sortir du pressing en 1v1 qu'avait mis Xabi Alonso sur eux. Et puis bah, il y a évidemment le problème des blessures, parce que quand on regarde le banc du Barça, même l'attaque du Barça au départ de ce Classico, bah, il manque énormément de monde. Il manque Lewandowski, Rafinha, il manque Joan Garcia aussi dans les buts, et ça commence un peu à se faire ressentir. Et bah, cet aspect physique, ça reste quand même une grosse interrogation, parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément de. Enfin, il y a eu une trêve, mais bon, ils sont tous internationaux, donc ils ne se sont pas reposés. Et est-ce qu'il va falloir attendre décembre pour voir tout cet effectif se régénérer? Ça fait beaucoup de points à perdre d'ici là. Alors, Hansi Flick, pour le Classico hier, était en tribune parce qu'il était suspendu tout là-haut. Est-ce qu'il a vu les choses différemment depuis ce poste-là que depuis le bord terrain? Est-ce qu'il a vu des choses à améliorer peut-être? C'est sûr qu'il a beaucoup de choses à remettre en question sur cette équipe. Mais est-ce qu'il a beaucoup de solutions? C'est moins sûr, parce que bah, voilà, il a toujours un effectif qui est très restreint. Et quand on voit par exemple que Rooney Bardghji rentre à la fin du match, il paraît un peu impressionné de jouer dans un classico. Et c'est vrai que c'est pas forcément son rôle à lui de voir voilà faire la différence dans un classico qui était clairement, enfin, on était sur un Barça clairement inoffensif. Hein. À la fin, Marcus Sorgue, l'adjoint de Flick, a même dit en conférence de presse, on a fini le match avec deux défenseurs et on n'arrivait quand même pas à se créer des actions. Donc voilà, ça dit quand même beaucoup de ce Barça-là qui doit faire beaucoup, beaucoup mieux. Pour le coup, le point positif là du Barça, c'est que ça arrive assez tôt, cette crise. Il y avait eu plus ou moins la même en novembre-décembre l'année dernière. Et ça s'était plutôt bien fini pour le Barça. Donc Flick peut peut-être trouver les clés pour solutionner ce mauvais enchaînement.
Il y a une clé quand même pour ouvrir beaucoup de portes au Barça. Elle s'appelle Lamine Yamal, généralement. Là, Hansi Flick, depuis ses tribunes, il a dû voir comme nous, à savoir pas grand-chose de Yamal. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'on est plus dur avec lui par rapport à ses petites déclarations qu'il y avait eu avant match? Est-ce qu'on est plus clément avec lui parce que bah, il est très jeune et que, il a été finalement aussi blessé en début de saison un petit moment? Voilà, comment est-ce qu'on analyse le cas Yamal en Catalogne?
Ah, en Catalogne, il y a quand même globalement de la bienveillance, parce qu'on rappelle qu'il a 18 ans et qu'effectivement, il revient d'une blessure au pubis et qu'il n'était pas à 100%. Et c'est d'ailleurs ce que dit Marcus Sorg après en conférence de presse. C'est déjà, voilà, il revient de blessure, donc lui, il n'est pas à 100%. Il dit aussi que très certainement les sifflets et tous les chants qui étaient contre lui au stade, ça a dû le marquer, parce que voilà, il rappelle aussi le fait que bah, à 18 ans, on n'est pas forcément prêt à vivre tout ça. Alors après, c'est des choses que effectivement lui-même a provoqué entre guillemets, parce que bon, quand il poste certaines stories Instagram, quand il dit certaines choses dans la presse, évidemment, ça finit par lui revenir aux oreilles. C'est pas la première fois que ça lui arrive, parce qu'on se rappelle que contre le PSG, le match qui est aussi perdu cette saison, il avait aussi un peu teasé son match, etc. sur Instagram. Ça n'était pas forcément bien fini pour lui. Est-ce qu'il va arrêter ça pour autant? Je suis absolument pas convaincue de ça, parce que je pense que ça fait partie du personnage, mais peut-être lui-même de sa motivation personnelle, en fait, tout simplement. Après, c'est des choses que lui, il doit apprendre à gérer. Et là, sur l'aspect même du jeu, Au-delà du fait qu'il était vraiment très en deçà de ce qu'on a pu connaître, il a eu très peu de ballons, Lamine Yamal, sur le match. Le Barça a très très peu attaqué sur l'ensemble de la partie. Donc effectivement, il a eu très peu de ballons à se mettre sous la dent. On l'a vu plus dans le pressing défensif, revenir à aider les copains derrière, que devant. Donc bon, ça reste un non-match pour lui. C'est dommage parce que c'est pas la première fois que ça arrive cette saison dans un gros match. Mais en tout cas, en Catalogne, on lui trouve pas mal de circonstances atténuantes. Va juste pas falloir que ça dure trop longtemps parce qu'effectivement, à force, les gens vont un peu en avoir marre qu'ils s'amusent à chambrer sur les réseaux sociaux pour ne pas assumer sur le terrain. Parce que jusqu'ici, c'était un peu l'inverse. Il chambrait sur le terrain, il chambrait sur les réseaux, mais il assumait derrière. Là, c'est vrai que c'est plus trop le cas cette saison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des précautions physiques à prendre du côté du staff de ne pas le faire enchaîner autant alors qu'il a 18 ans? Voilà, ça c'est des questions qu'il va falloir se poser. Et puis bah peut-être que, comme dit Marcus Sorg, il revient d'une blessure, donc peut-être qu'il faudra aussi le reposer. C'est dans tous les cas, ça reste un apprentissage pour lui parce que bah même si c'est déjà sa troisième saison en professionnel, il a 18 ans.
Faut pas l'oublier, effectivement. Bon, en tout cas, on suivra ce FC Barcelone, évidemment. Il y aura notamment le retour de la Ligue des Champions très prochainement. On te retrouvera lundi prochain dans Tour d'Europe. Anna, merci pour ce gros débrief du Classico. Nous, on va prendre la direction de l'Angleterre et rejoindre Philippe Auclair. Salut, Anna. Allez, on traverse la Manche et on rejoint Philippe Auclair pour nous parler de ce qui s'est passé ce week-end en Première Ligue. Et il s'en est passé des choses, Philippe. Salut à toi, j'espère que tu as passé un bon week-end. J'en doute pas parce que, voilà, comme on vient de le dire, il a été intense en Première Ligue. On va partager ce temps avec toi en deux moments. La course au titre d'abord, ensuite on reviendra sur Sunderland, comme on le disait en introduction. Et donc cette course au titre qui a peut-être connu un premier moment de bascule important ce week-end, parce que d'un côté, Liverpool a encore perdu, quatrième défaite de suite pour les Reds. Manchester City a rechuté, première défaite depuis fin août, si je ne m'abuse, pour les Citizens. Et puis de l'autre, Arsenal qui s'est imposé contre Palace. Revenons d'abord sur les grands perdants du week-end, Philippe. Liverpool, City, qui laisse des plumes en route.
Et tu peux ajouter Chelsea à la liste, mais c'est surtout bien évidemment du côté de Manchester City et de Liverpool. Peut-être beaucoup plus surprenant du côté de Manchester City, parce qu'on sentait un vrai mieux chez Manchester City ces dernières semaines, avec une équipe qui joue un football beaucoup plus délié, plus solide également. Et puis là, ils sont tombés sur une équipe d'Aston Villa qui revient, qui sortait de... elle aussi d'une période particulièrement compliquée, hein, puisque même on craignait pour Unai Emery à un moment. Puis là, ils viennent d'aligner donc deux victoires consécutives, une sur Tottenham et puis donc l'autre sur Manchester City. Un but absolument magnifique au passage, tu as vu, de Matty Cash, hein, qui est absolument superbe, magnifique. Absolument rien que Donnarumma peut faire sur la chose. Mais ils ont eu le ballon, mais ils n'ont pas pu s'en servir comme ils savent le faire d'habitude, et du coup, ils sont tombés. Et ça, c'était une surprise. Par contre, du côté de Liverpool, je dirais que c'était moins une surprise, dans la mesure où ce à quoi on a assisté contre Brentford et ce à quoi on assiste pratiquement depuis le début de saison, à savoir une équipe de Liverpool qui, défensivement, est complètement à la rue. Il n'y a pas d'autre mot, tu m'excuses l'expression, mais franchement, ce qu'on a encore vu face à Brentford, qui n'est pas le Brentford en plus de Thomas Frank, c'est plus le Brentford d'Ivan Toney, de Brian Bomo et tout ça, il y a eu beaucoup de départs, c'est Keith Andrews qui est maintenant qui a la charge du club de Londres. Sentir bien, mais c'est plus la terreur que c'était, si tu veux, il y a encore 2 ans. Mais là, il n'y a rien à dire, le résultat est totalement mérité, et on a encore vu une équipe de Liverpool extraordinairement fébrile en défense. On a vu une équipe de Liverpool dans laquelle il y avait de nouveau Mo Salah au passage, parce que tu as dû remarquer qu'il y avait il se passe des choses, il se passe des choses autour de Mo Salah, notamment sa place sur le banc à Francfort, en Ligue des Champions, où ça s'était très, très bien passé pour Liverpool. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, ce qu'on a vu à Brentford, c'est que ce qui s'est passé à Francfort, c'est que Liverpool était tombé sur une équipe qui avait une défense encore plus fragile que la leur. Et que c'était donc une exception. Ce n'était pas un signe que Liverpool revenait. Non, les problèmes sont toujours les mêmes, à savoir inefficacité devant. On se crée des occasions, mais on ne les concrétise pas. On n'a pas encore trouvé la bonne formule pour avoir tous ces nouveaux joueurs être alignés ensemble en attaque. Et puis, de l'autre côté, en défense, ça ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas, en particulier, une fois de plus, c'est la paire Van Dijk-Konaté, qui est franchement, une fois de plus, à la faute sur ce que fait Brentford. Et ça devient, là, ça commence à devenir très compliqué. Et quand tu vois le classement, tu te dis, OK, septième, c'est pas grand-chose, mais déjà 7 points de retard sur Arsenal.
Ouais.
Et puis surtout, il y a des équipes qui passent devant, et il y en a de plus en plus qui passent devant. Et en fait, ils sont maintenant... Tu vois, je te parlais de Unai Emery qui était en difficulté, on se posait même des questions sur son avenir. Aston Villa est maintenant à égalité de points avec Liverpool.
Ouais, ça paraît dingue.
C'est quand même
Ça paraît dingue. Ça paraît dingue par rapport au début de saison. Effectivement, là, on est sur un top 4 assez improbable. En Première Ligue, on reviendra justement sur Sunderland dans quelques instants. Tu parlais de bonne formule que Liverpool a du mal à trouver. C'est pas du tout un souci pour Arsenal qui a sa formule. Elle est claire, elle est identifiée. Les Gunners se sont imposés 1-0 contre Palace. Bah avec ce qu'on voit d'eux d'habitude, je crois qu'il y a 3 tirs cadrés, il y a à peu près un expected goal pour un but, une défense de fer. Ça roule vraiment très très bien pour ces Gunners de Mikel Arteta.
Ouais, même si la performance n'était pas à la hauteur, mais la performance était aussi le reflet de la qualité de l'adversaire. Crystal Palace,
bien sûr,
super coriace, on le sait. C'est une excellente, excellente équipe. Quand tu as un Mateta devant, de toute façon, tu sais que tu auras des problèmes parce que il est difficile à bouger, hein, le Jean-Charles. Et puis, c'est une équipe très, très bien organisée, très agressive sur le ballon. Et pendant assez longtemps, cette équipe d'Arsenal a frappé à la porte, mais personne ne voulait les laisser entrer. Et la délivrance est venue une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté. Mais bon, un petit peu différemment cette fois-ci. Ce n'était pas un coup de tête de Gabriel ou un coup franc de Declan Rice. En l'occurrence, on a vu en deuxième phase, en l'occurrence, Eberechi Chiesé faire une reprise acrobatique. Un geste, d'ailleurs, je ne sais pas si on a un mot pour décrire cette espèce de reprise où tu te lances comme ça en l'air, tu sautes et dans le même temps, tu fais une espèce de bicyclette.
C'est un peu Zlatanesque au ski.
Tu as raison. C'était assez Zlatanesque, c'était magnifique et il y avait absolument rien que Palace puisse faire pour empêcher cette frappe de terminer dans le filet. Et ensuite, deuxième mi-temps, parfois un petit peu nerveuse, quelques petites alertes avec la sortie de Saliba à la mi-temps, la sortie de Declan Rice un peu plus tard. On va faire un aveu, il est assez tôt ce lundi matin, donc on n'a pas encore d'informations définitives sur la gravité ou pas des petits problèmes que peuvent connaître Saliba et Rice. Mais l'essentiel a été préservé et Arsenal, une fois de plus, sort vainqueur, 1-0, 4 points d'avance au classement. Et le seul bémol pour moi reste le fait que Mikel Arteta, si jamais il pense à ce qui s'est passé il y a quelques semaines de ça, quelques mois maintenant de cela, il va se dire qu'on a quand même loupé une belle occasion de faire un break encore plus net lorsqu'on est allé à Anfield. Qu'on a joué cette équipe de Liverpool extraordinairement fébrile et qu'on n'en a pas tiré avantage et qu'en fait, c'est là qu'Arsenal a concédé sa seule défaite de la saison jusqu'à présent avec ce coup franc de Dominic Szoboszlai. Mais pour tout le reste, ça rigole du côté des Gunners et ils font plus que jamais figure de favoris pour le titre. Je sais, ça paraît dingue de dire ça.
C'est exactement ce que je voulais te demander, Philippe. Est-ce qu'on est en droit? On est fin octobre, comme tu le dis, on a joué que 9 matchs, mais est-ce qu'on est en droit par rapport à ce qu'on voit d'Arsenal, mais aussi par rapport à ce qu'on voit de la concurrence, de s'emballer maintenant pour les Gunners?
Écoute, quand tu concèdes 3 buts en 9 matchs,
c'est fou.
Que tu as quand même la deuxième meilleure attaque du championnat, que tu as un effectif que tu as renforcé en dépensant quand même 280 millions d'euros net l'été dernier, que justement là, au contraire de Liverpool, la mayonnaise avec les nouveaux joueurs a pris. Et une des choses, je pense, les plus encourageantes pour Mikel Arteta hier, c'était la performance de Victor Gyökeres. Il n'a pas marqué, mais alors là, le boulot qu'il a abattu à la pointe de l'équipe d'Arsenal, ça c'est nouveau, ils n'avaient pas d'avant-centre, de point de fixation comme celui-là, qui leur permet d'allonger le jeu en plus de cela, lorsque la situation est un petit peu compliquée. Autrefois, Arsenal essayait de s'en sortir, tu vois, dans son propre camp, avec des passes en triangle et tout ça, et c'était assez dangereux, tu pouvais perdre le ballon dans tes 30 mètres. Là, si jamais il y a un problème, ce n'est pas compliqué, tu balances à Victor et Victor s'en occupe. Et il permet comme ça, c'est... Et il l'a fait de manière absolument remarquable et encore une fois face à un très très bon Crystal Palace. Donc oui, il y a tout ce qu'il faut et il y a une richesse, un effectif, une richesse qui est telle qu'on ne se rend même pas compte ou même plus compte du fait que tu as toujours des blessés comme Kai Havertz et Martin Odegaard. qui, a priori, seraient des titulaires dans cette équipe d'Arsenal.
Absolument.
Et que tu te dis, OK, bah, si Léo, Gabriel Martinelli, qui est excellent depuis le début de saison, bah, il était sur le banc. Luis Scali, qui est maintenant l'arrière-gauche, ou qui était l'arrière-gauche de l'équipe d'Angleterre, bah, il est maintenant sur le banc, remplaçant derrière Ricardo Calafiori. C'est-à-dire, chaque poste est doublé. Et,
ouais,
et quand tu regardes les autres équipes, il n'y en a aucune qui est ça. Il n'y a pas Liverpool, pas encore. Ça va prendre du temps. La seule... c'est marrant de dire ça, mais en ce moment, mais la seule équipe en ce moment qui soit dans la même dynamique, mis à part les deux petits, on avait déjà parlé de Bournemouth, on va parler de Sunderland. La seule autre équipe qui est dans cette dynamique actuellement, incroyablement, c'est Manchester United. Où les choses commencent à se mettre en place. Ça a mis un an, mais ça vient. Et du coup, Arsenal, bon, est évidemment fait figure de favori parce que, en raison de leur propre qualité et en raison justement du manque de qualité, du manque de cohésion et du manque de profondeur de banc de ses adversaires directs.
Bon, au milieu de ces dynamiques surprenantes, on a parlé de Liverpool, on parlait de Manchester United. Il y a celle de Sunderland, qu'on n'attendait pas là à ce moment-là de la saison, on va être très honnête. Le promu Sunderland, entraîné par Régis Le Bris et ses franchises. On rappelle que Régis Le Bris avait fait monter Sunderland dès sa première saison sur le banc des Black Cats. Là, on a un Sunderland dans le top 4. Philippe, raconte-nous cette belle histoire, tout simplement.
Alors, au départ, on se disait, vu la ferveur du public de Sunderland, pour eux, la survie va se jouer à la maison. Au départ, c'était comme ça. On partait pour ça. On dit, c'est pas impossible, mais généralement, tu prends les trois promus des saisons précédentes. Généralement, tu sais, c'est l'ascenseur immédiat. Hein, tu montes au premier étage et tu redescends au sous-sol, dans certains cas. Et en l'occurrence, dans le cas de Sunderland, ils ont donné le ton immédiatement. Alors, ils ont eu un avantage, c'est que leur calendrier n'a pas nécessairement été le plus difficile qui soit pour un promu. Ils ont commencé par une victoire contre Brentford, mais Brentford, je répète encore une fois, c'était le nouveau Brentford de Keith Andrews. Ouais. Ensuite, ils ont fait, alors là, un match nul de très bonne facture à Crystal Palace. Ils ont fait match nul à la maison contre Aston Villa, qui n'allait pas bien à l'époque. Ensuite, ils sont allés à Nottingham Forest. Bon, alors Nottingham Forest, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Et ils ont gagné. Ils ont ensuite joué contre Manchester United, ils ont perdu, c'était assez logique. Ils ont joué ensuite contre les Wolves, et les Wolves, ça va très très mal. Et puis là par contre, c'est un énorme coup. Ils vont à Stamford Bridge et ils battent Chelsea. Avec un petit peu, un brin de chance, peut-être qu'avec un peu plus de réussite, Chelsea aurait pu partager les points, voire l'emporter. Mais cette équipe ne lâche jamais. C'est totalement dans la lignée de ce qu'on avait vu de en Championship, où ça avait super bien commencé pour Régis Le Bris, et où ils avaient les deux premiers mois avaient été fantastiques, et puis ça avait été un peu plus compliqué, mais ils étaient revenus, et ils s'étaient bagarrés dans les barrages, et Dieu sait que les barrages, c'est un parcours du combattant incroyable, et ils avaient remporté ces barrages en battant Sheffield United, à la force du poignet. Et ce sont des bagarreurs incroyables. Et tu vois, d'ailleurs, ça se sent dans... La connexion avec le public du Stadium of Light est extraordinaire. Je sais qu'il y a souvent des gens qui vont nous écouter, vont dire « j'aimerais bien aller voir un match de Première Ligue, mais je ne peux pas aller à Arsenal parce que c'est tout le temps sold out. Ben, » Allez au Stadium of Light si vous pouvez trouver une place, parce qu'en ce moment, c'est cher. C'est pas cher, justement. Et vous verrez ce que c'est qu'une ambiance à l'anglaise. C'est absolument phénoménal. Et il l'a fait à sa manière, hein, le Régis. C'est-à-dire que il n'est pas là à se frapper la poitrine en se disant « c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort ». Il travaille dans la discrétion, il travaille dans le sérieux, la discipline. Ben, c'est remarquable. Je pense que ça mérite un coup de chapeau parce qu'il y a tellement peu d'entraîneurs français qui s'exilent de nos jours. Tu penses qu'il y a Patrick Vieira qui est à Genoa et ça ne va pas bien, à moins qu'on puisse dire. Mais sinon, les entraîneurs français, soit on n'en veut plus, soit ils hésitent à aller dans des pays dont ils ne parlent pas la langue. Et Le Bris, il a fait ça. Il a décidé, moi je plonge, je vais avec un club de championship qui n'a pas été en première ligue depuis 6 saisons à l'époque, 6 ou 7 saisons. Mais on va faire quelque chose ensemble. Et il les fait monter, et non seulement quand ils montent, et ils sont là pour rester 17 points après 9 matchs, c'est complètement inespéré pour un promu. Alors attends, c'est pas joué, hein, parce que je regardais le calendrier des Black Cats au mois de novembre et de décembre. Ouh là 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 là.
Ouais, c'est corsé.
C'est corsé, il y a Arsenal le 8 novembre, ensuite il y a la trêve internationale, ils vont à Fulham, ils jouent contre Bournemouth, qui va très très bien, ils vont à Liverpool, ils vont à Manchester City, ils reçoivent Newcastle et ils vont à Brighton. Alors là, par contre, ça va être le test. On va voir. Mais l'important, c'est qu'ils se sont mis les points dans les poches avant d'engager cette série de matchs extrêmement compliqués. Et puis, on est aussi obligé, je pense, d'ajouter au nom de Le Bris qu'il n'est pas le seul Français à Sunderland, qu'il y en a quelques-uns qui font un sacré parcours. Il y a Nordi Mukiele, le copain de Kylian Mbappé, bien évidemment, qui est là avec ses touches, ses espèces de fusées là, qui lance depuis la ligne de touche de 40 mètres. Il y a Enzo Lefebvre qui fait du bon travail. Et puis celui qui explose complètement, c'est Wilson Isidore, hein, et qui n'est pas un nom très connu, j'imagine, en France, parce que sa carrière est de la fête très loin de chez nous. Il est sur un nuage en ce moment. Et 4 buts déjà pour lui. Et donc, le Sunderland à la sauce française, ça marche. Et encore une fois, grand coup de chapeau à cet entraîneur français qui a eu le courage de s'expatrier pour essayer quelque chose, pour aller au haut niveau, mais pas par le chemin plus facile.
Ouais, très belle histoire que cette histoire de Régis Aubry, qui effectivement, comme tu disais, n'est pas le genre d'entraîneur qui se met en avant, mais qui est en train de se faire connaître du côté de Sunderland. On va continuer à suivre leur parcours, évidemment, aux Black Cats. Merci beaucoup, Philippe, pour ton analyse détaillée. On te retrouve lundi prochain dans Tour d'Europe. Et nous, on va rejoindre Elton du côté de la Ligue 1. Allez, on termine ce Tour d'Europe en Ligue 1 et on rejoint notre spécialiste du football tricolore, Elton Mokolo. Salut Elton, est-ce que tu as apprécié ton week-end de Ligue 1 ?
Salut Arthur, oui, évidemment, ça a été un week-end de Ligue 1 qui a été très intéressant parce qu'on était quand même sur un week-end de Ligue 1 où il y avait le match pour la première place dans un premier temps. Enfin, il y avait le PSG samedi qui jouait contre Brest, ensuite on a eu Lens Marseille et enfin on a eu Lyon Strasbourg. Donc on a eu un week-end qui a été quand même très intéressant sur le haut du tableau et même sur le bas de tableau, il y a quand même eu des performances notables.
Ouais. Ouais. On commence peut-être par la fin, justement, tu en parlais, ce Lyon-Strasbourg, gros coup complètement inattendu, si on est honnête, de l'OL contre Strasbourg, Elton, 2-1, la victoire des Gones.
Gros coup, oui et non. Oui, parce qu'on aurait pu se dire que Lyon, après avoir été mené au score, ça allait être un match beaucoup plus compliqué. Et non, parce qu'on connaît les vertus mentales de cette équipe et les vertus footballistiques de l'Olympique Lyonnais, cette saison qui avait déjà battu l'Olympique de Marseille. Il se trouve que Strasbourg, dans les gros matchs, c'est une équipe qui peut être friable, qui peut être prenable, notamment dans les dernières minutes. Et Lyon a optimisé. Comme d'habitude, Lyon a optimisé le contenu en profitant de circonstances favorables avec notamment ce carton rouge pour Doucouré. Alors oui, à un moment donné, cette supériorité numérique, elle ne s'est pas forcément manifestée. Après, il a fallu un but extraordinaire de Moreira pour justement que Lyon l'emporte. C'est une victoire qui a fait énormément de bien parce que là, Lyon était davantage attendu après les deux défaites. Dans un premier temps contre Toulouse, dans un second temps contre Nice. Là, c'est quand même une belle semaine entre la victoire contre Bâle et hier soir.
Dans la course à l'Europe, il s'est passé d'autres choses. Et évidemment, il y a Lille qui s'est très largement imposée, Monaco qui a gagné aussi. Il y a un autre match qui a retenu notre attention, c'est cette nouvelle défaite, en tout cas cette nouvelle contre-performance du Stade Rennais qui était sur 4 matchs nuls consécutifs et qui s'incline à domicile contre Nice. Est-ce que ça va être le revers de trop pour Habib Bey selon toi, Elton ?
Ah, pour moi, ça me paraît très compliqué parce que oui, Rennes ne manque pas de volonté. Oui, Rennes aurait pu à la fin revenir à deux partout, mais Rennes perd. C'est-à-dire, on parle d'une équipe qui fait du sur place. Et par rapport à tout ce qui a pu être annoncé cet été en termes d'investissement, notamment en mercato qui était bien ciblé, les promesses que pouvait engendrer Habib Bey, force est de constater que pour l'instant, les résultats ne sont pas là, les résultats ne sont pas forcément satisfaisants, avec un calendrier qui, au départ, bon alors, ils ont affronté l'Olympique de Marseille lors de la première journée, mais derrière, c'est un calendrier qui est relativement modeste. Et là, le plus dur est à venir parce que là, Rennes va affronter davantage d'équipes du haut de tableau. Et je pense que ça peut être une défaite qui va être très compliquée pour Habib Bey parce qu'aujourd'hui, c'est un entraîneur qui est beaucoup plus proche de la sortie que de se maintenir. Alors oui, lui, il explique que voilà, la pression, elle est inhérente à son métier, mais toujours est-il qu'à partir du moment où tu n'as pas de résultats concrets, tu n'as pas de résultats positifs, et ben forcément, il est sous pression. Et moi, j'ai dans l'idée que là, ça va être très compliqué pour Habib Bey. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un espoir pour Habib Bey, c'est qu'on est sur une semaine à 3 matchs. Auquel cas, oui, une décision hâtive à 48 heures d'un match, ça peut être très compliqué pour le Bordeaux Rennais. Mais toujours est-il que moi, ça me paraît très compliqué que sur le moyen terme, ils sont encore l'entraîneur du Stade Rennais.
Bon, on va parler du nouveau dauphin du Paris Saint-Germain dans un instant, mais on ne va quand même pas faire un lundi sans parler de ce PSG qui restait sur une victoire extraordinaire en Ligue des Champions, en tout cas très large, mais qui patinait un peu plus en Ligue 1 ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire à Brest, 3-0? La conclusion, c'est quoi? C'est que les meilleurs attaquants du PSG cette saison sont les défenseurs?
Ça reste de grands joueurs, mais moi, ce que je vais mettre en avant, c'est davantage la dimension collective de cette équipe, la performance collective qui a été sérieuse, qui a été appliquée et qui a été convaincante. C'est la chose la plus importante, parce que quand bien même on avait un PSG qui avait 5 titulaires qui n'étaient pas forcément alignés en début de rencontre, comme Ousmane Dembélé qui était sur le banc, comme Nuno Mendes qui est même pas rentré, comme João Neves et Fabian Ruiz qui n'étaient pas convoqués, on avait un PSG qui a été plutôt convaincant, qui a été plutôt sérieux. Et il y a même un élément qui est très important, et Luis Enrique l'a relevé, le PSG a bien défendu, parce qu'on parlait d'une équipe qui, sur le mois dernier, n'avait pas forcément de clean sheet, n'avait aucun clean sheet. Le dernier clean sheet de mémoire, c'était contre l'Atalanta. Donc même ça, ça a été coché du côté du PSG. Ça te permet de redevenir leader. On a le sentiment que le PSG voilà, monte en puissance. Mais toujours est-il que c'est bien d'avoir un PSG de gala en Ligue des Champions, oui, mais un PSG qui, sur le quotidien de la Ligue 1, redevient cette équipe compétitive et cette équipe intraitable. 3-0 à la clé.
Bon, ce PSG qui voilà, est leader de Ligue 1 et qui a un nouveau dauphin, le RC Lens. Lens dont on parlait peut-être un peu moins, qu'on voyait peut-être un peu moins venir, mais le bilan des dernières semaines, il est quand même assez excellent. 6 victoires sur les 8 derniers matchs. Les Lensois n'ont perdu que contre le PSG, justement, depuis septembre. La mayonnaise, elle est en train de très bien prendre avec Pierre Sage après cette victoire très importante contre l'OM samedi soir de Buzyn.
Écoute, moi Arthur, moi j'aime bien dire, on joue comme on s'entraîne comme on est dirigé. Et on est obligé de mettre en avant l'intelligence sportive lors du mercato de l'été dernier, qui a abouti à une équipe qui est franchement convaincante, parce que les recrues ont eu un impact fondamental, que ce soit Florian Thauvin, bien évidemment, qui a été mis en avant à travers son retour en équipe de France, Richard Daibus, Baïdou qui a fait un super match, on pourrait mettre aussi Sangaré au milieu de terrain. Et mettre en avant aussi l'équipe, l'ossature qui est là depuis 2022 et même bien avant. Et donc tout ça aboutit à ce que Lens est une équipe qui est compétitive. Et j'ai oublié un élément qui est très important, Pierre Sage qui grandit à travers ce projet lensois, qui t'apporte un peu plus de calme, de la sérénité. On a vu Lens qui était mené face à l'Olympique de Marseille, qui aurait pu justement s'affoler, il n'en a rien été. Derrière, il y a eu ce pénalty converti par Hudson-Edouard. Il y a un peu de réussite sur le second but lensois avec le CSC de Pavard. Et toujours est-il que Lens, pour moi, c'est un classement qui est mérité, parce que sur le début de saison, on a le sentiment d'avoir une équipe qui monte en puissance, une équipe qui a trouvé son style, à savoir une équipe qui est efficace défensivement, offensivement, qui optimise à travers Florian Thauvin, à travers Hudson-Edouard. Et tout ça fait que Lens aujourd'hui est un candidat à l'Europe, parce que sur les dernières saisons, on sait que le standard de cette équipe, c'est top 8 au minimum. Et là, on peut se dire que dans une Ligue 1 où tout est ouvert, Lens peut aller chercher une place européenne, à commencer par la Ligue Europa, voire plus.
Plus, c'est ce que vise notamment l'Olympique de Marseille. On va faire un petit focus quand même sur les hommes de Roberto De Zerbi, qui sortent d'une semaine assez compliquée. Défaite en Ligue des Champions sur la pelouse du Sporting Lisbonne. Défaite ensuite donc contre Lens. On avait l'impression de peut-être jamais avoir vu l'OM de Zerbi aussi fort il y a encore 10-15 jours. Est-ce que cette semaine, elle est de nature à inquiéter, ou est-ce qu'on est plutôt sur un épiphénomène selon toi?
Ça va être l'objectif du côté de l'Olympique de Marseille de montrer que cette semaine, c'est un épiphénomène. Pour moi, c'est la principale marge de progression du côté de l'Olympique de Marseille, être moins sensible à la défaite. Et là, pour le coup, on a vu un Olympique de Marseille qui à chaque fois sur les premières périodes, a été pour moi la meilleure équipe. Mais malheureusement, le football, c'est pas seulement 45 minutes. Et on a vu que sur des détails, les matchs peuvent basculer, que ce soit à Lisbonne avec ce carton rouge d'Emerson et samedi avec, dans un premier temps, le pénalty concédé par Benjamin Pavard, dans un second temps, le CSC concédé par Benjamin Pavard. Et derrière, on a vu l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille est mené à la 52e minute. On n'a pas vu un Olympique de Marseille qui, pendant une quarantaine de minutes, a été en capacité d'aller chercher, d'aller arracher au moins un match nul. Donc c'est une défaite qui doit justement être bien encaissée pour l'Olympique de Marseille, pour revenir de la meilleure des manières et se dire que l'objectif, c'est toujours, dans un premier temps, de se battre pour la Ligue des Champions et, dans un second temps, mettre la pression sur le PSG, parce que dans l'absolu, il y a seulement 2 points d'écart avec le PSG. Ça doit servir de moteur sur les prochaines échéances, pardon, que ce soit pour la Ligue 1, mais aussi pour la Ligue des Champions, avec un match très très important contre l'Atalanta. Donc c'est un coup d'arrêt momentané pour l'Olympique de Marseille, mais on a hâte de voir ce qu'ils vont donner contre Angers pour se relancer et montrer que c'était qu'un épiphénomène.
Tu nous parlais des premières mi-temps intéressantes de l'OM la semaine dernière. Est-ce que au global, tu es d'accord sur l'analyse de Roberto De Zerbi qui en fait sort ses deux victoires en disant que son équipe était largement meilleure que l'autre? Ou est-ce qu'on est sur un léger manque, j'allais dire d'humilité, on va pas taper sur l'italien, mais dans cette idée-là?
Attention à l'autosatisfaction. Attention à l'autosatisfaction pour Roberto De Zerbi, de se dire que son équipe était supérieure, parce que la supériorité, on l'a vu, oui. Mais attention, le football, il est tellement complexe que il y a aussi des choses à gérer, comme des temps faibles, des détails qui ne sont pas forcément en ta faveur. Et on ne peut pas se dire que du côté de l'Olympique de Marseille, il faut que les planètes soient toutes alignées pour voir Marseille gagner un match. Parce qu'il peut arriver qu'une équipe ne soit pas forcément bien sur une première période et réagisse en seconde période. De la même manière, il peut arriver qu'une équipe soit supérieure en première période et passe momentanément à côté sur la seconde période. C'est ce qui est arrivé à l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, du côté de Roberto De Zerbi, je comprends quelque part ce qu'il veut dire. C'est aussi une manière de protéger son groupe, manière de dire que oui, c'est une semaine où il y a quand même de défaites, mais qu'à côté de ça, il y a eu de bonnes choses. Ça, je l'entends. Mais publiquement, attention à l'autosatisfaction, parce que parfois, par rapport aux adversaires, ça peut pas, c'est pas forcément une vérité absolue. Parce que, encore une fois, le Sporting, ok, ça a été moyen, mais le Sporting a quand même trouvé les ingrédients pour aller chercher cette victoire. Et Lens n'a pas eu besoin de faire des choses extraordinaires pour aller gagner contre l'Olympique de Marseille. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans son analyse au global, et pas seulement se dire que parce que l'Olympique de Marseille a pu afficher une supériorité, ça s'est traduit sur la réalité des deux rencontres, ce qui n'a pas été forcément le cas au tableau d'affichage.
Il y a 2 buts pris sur chacune de ces 2 défaites, 2 buts pris aussi lors de la victoire contre le Havre. On a beaucoup parlé des prestations très 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 décevantes de Benjamin Pavard. Est-ce qu'il y a un léger signal d'alerte sur la défense, alors qu'on se disait, ça y est, l'OM a enfin regagné en stabilité défensive grâce à son mercato d'été. Est-ce qu'il faut faire attention à ce niveau-là?
Il faut toujours faire attention, notamment à l'aspect défensif, et ça, Roberto De Zerbi va le prendre en compte sur les prochains matchs à venir. Maintenant, après, il faut ça contextualiser, parce que contre le Havre, il y a un but précoce et un but en fin de match. On a évoqué la rencontre à Lisbonne, où voilà, c'est un 11 contre 10 qui reste une situation qui n'est pas forcément facile à négocier. Et hier, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est un peu sabordé avec cette action du pénalty sur une action isolée et ce CSC, un CSC qui est plutôt évitable. Donc pour moi, c'est pas comme si l'Olympique de Marseille avait encaissé des vagues, avait été mis en difficulté défensivement. C'est surtout des périodes ponctuelles où l'Olympique de Marseille peut se montrer ponctuellement fragile. Donc pour moi, c'est une marge de progression pour éviter que ces détails négatifs impactent la feuille de route marseillaise.
Bon, on va suivre la suite pour l'OM. Effectivement, on aura très vite des réponses à toutes ces questions qu'on se pose, puisqu'il y a une journée en milieu de semaine. Merci en tout cas pour ton analyse, Elton. On te retrouve lundi prochain, évidemment, dans Tour d'Europe pour continuer d'analyser notre Ligue des Talents qu'on aime tant. À lundi, Elton. Salut. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. Merci d'être fidèle au poste. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout à la chaîne YouTube d'Eurosport France où vous pouvez retrouver toutes nos émissions et notamment nos émissions foot. Vous aurez évidemment droit au FC Stream Team vendredi. Et pour Tour d'Europe, on se retrouve donc lundi prochain. Très belle semaine à tous.